France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 19h. Et c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, mobilisation à Paris ce soir des étudiants juifs de France après l'agression hier du rabbin d'Orléans. Indignation générale en France, nous serons à Orléans et réaction politique à suivre. À la une également, le maire d'Istanbul, principal opposant au président Erdogan, envoyé en prison pour des faits qu'il conteste, eh bien le voilà démis de ses fonctions en plus. Nous serons en direct d'Istanbul. En Israël, la procureure générale est sur le point d'être destituée. Elle est présentée pourtant comme la garante de la démocratie israélienne. Nous serons à Jérusalem. Et puis nous irons également au Stade de France où nous attend Xavier Monferrand, 1h30 avant le coup d'envoi du match retour des Bleus en quart de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Et puis, ce sera l'une des grosses actualités de demain. Le procès de Gérard Depardieu, mis en examen pour viol à agression sexuelle, vous entendrez son avocat et la défense aussi d'une des plaignantes. Et puis nous irons au festival Sérimania à Lille. Zoom ce soir sur les séries qui mettent en scène les présidents de la République. Et témoignage en fin de journal de François Hollande qui va démolir au passage quelques idées reçues sur la fonction présidentielle. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, avec beaucoup de nuages pour démarrer la semaine.
Oui, ce sera surtout couvert et plutôt sec le matin. Retour des averses sur le sud-ouest et la moitié est dans l'après-midi.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
L'indignation donc en France après l'agression d'un rabbin hier dans le centre-ville d'Orléans, insulté, roué de coups alors qu'il rentrait à son domicile, son fils de 9 ans à ses côtés. L'agresseur est un mineur de 16 ans, toujours en garde à vue. Et à Orléans, eh bien, cette affaire a évidemment secoué la communauté juive. Reportage de Patricia Pourrez.
Dans la grande salle de la synagogue d'Orléans, André Bruon n'arrête pas de répondre au téléphone.
Ah, je suis très pris, ça m'arrête pas.
Le président de la communauté juive de la ville a été l'un des premiers à qui le rabbin a raconté son agression.
Il a été agressé par un jeune qui est venu, qui manifestement était déjà semblé agressif d'un point de vue physique. Il a été filmé en selfie avec l'agresseur et puis il a dit « Vous êtes juif, vous êtes juif, vous les juifs, vous êtes des fils de... hein ?» Voilà, donc à plusieurs reprises, il lui a craché dessus et puis après il en est venu à lui donner un coup de poing.
Il y a ensuite d'autres coups à la tête, sur le torse et même une morsure dans le dos. Des témoins finissent par s'interposer et l'agresseur s'en va. Il sera interpellé quelques heures plus tard par la police. Chez les fidèles juifs comme Samuel Bitoun, c'est la consternation.
On n'a pas eu d'agression depuis des années, on ne connaît pas ce type d'acte ici à Orléans. Et hier on a appris la nouvelle, on était tous vraiment choqués.
Pour ce père de famille, pas question de céder à la panique.
Je dirais pas peur, mais c'est vrai que c'est une retenue. On va être discret, on va pas non plus s'afficher ouvertement.
Dès hier soir, la communauté juive d'Orléans a reçu des témoignages de soutien de la France entière et de tous les bords politiques.
Un reportage ici, Orléans. Emmanuel Macron dénonce le poison de l'antisémitisme. Le président promet de ne pas céder à l'inaction. Et pour Gérald Darmanin, cette nouvelle séquence illustre les risques qui pèsent aujourd'hui sur les juifs, en France comme à l'étranger. Le ministre de la Justice pointe d'ailleurs, sans le nommer, le parti LFI, dont il relève, je cite, « une ambiguïté sur l'antisémitisme », accusation que porte aussi régulièrement le Rassemblement National à l'encontre des Insoumis, ce qui ulcère le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont, très proche de Jean-Luc Mélenchon.
C'est vraiment odieux de dire ça. Monsieur Darmanin ferait mieux de s'occuper de son bilan puisque c'est lui qui était ministre de l'Intérieur pendant des années. Du côté du Rassemblement National, on n'hésite pas à parler de Français de papier comme le faisait le régime de Vichy en parlant de Français de timbre de papier parce qu'à l'époque, il fallait payer un timbre de papier pour pouvoir acquérir la nationalité française. Et tout ça, finalement, c'est une forme d'inversion des valeurs. Et on voit bien qui menace aujourd'hui de manière très directe les personnes en raison de leur religion. Il y a eu encore des saluts nazis qui ont été faits par l'UNI, qui est un mouvement syndical de droite étudiant. Donc il y a des menaces qui pèsent sur nos compatriotes juifs et je pense que mettre de l'huile sur le feu comme le fait Marine Le Pen, comme le fait Bruno Retailleau et comme le fait Gérald Darmanin, c'est justement très nocif pour l'unité républicaine.
Le député LFI de l'Essonne contacté par Laurence Perron. Et ce soir, après l'agression du rabbin d'Orléans, l'Union des étudiants juifs de France appelle à un rassemblement parisien contre l'antisémitisme. Ce sera dans 25 minutes, place de la Bastille. Et je rappelle qu'en 2024, plus de 1500 actes antisémites ont été recensés en France. Sébastien Chenu veut effacer le voile de notre société, à l'exception, dit-il, du cadre privé. Le vice-président du Rassemblement national désigne le voile comme un signe d'infériorisation de la femme. Le RN souhaite faire évoluer la loi de 2024 qui interdit le port de tout signe religieux dans les écoles, les collèges et les lycées, pour l'étendre, cette loi, aux bâtiments publics, aux administrations et aux universités. La prison pour le maire d'Istanbul, principal opposant au président Erdogan. Depuis le milieu de l'après-midi, Ekrem İmamoğlu est aussi démis de ses fonctions, accusé d'une corruption qu'il conteste. Ses avocats vont d'ailleurs faire appel de cette détention. Et on jaugera ce soir encore de l'ampleur des manifestants qui soutiennent le maire d'Istanbul. Depuis son arrestation à son domicile mercredi, les rassemblements se succèdent pour le soutenir, mais aussi pour dire l'inquiétude que leur inspire désormais le régime d'Erdogan, capable d'envoyer ses adversaires politiques en prison. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Vous êtes en direct d'Istanbul parmi les manifestants. Ekrem İmamoğlu aurait dû assister aujourd'hui à son intronisation comme candidat de son parti social-démocrate à la présidentielle dans 3 ans. Que risque-t-il désormais ?
Écoutez, il est en prison, il a été suspendu de ses fonctions de maire, mais le gouvernement n'a pas nommé d'administrateur à sa place et il n'y a pas de condamnation définitive. İmamoğlu n'est donc pas disqualifié pour la présidentielle. Alors, bien sûr, s'il devait être incarcéré pour des charges de lien avec le terrorisme, et cette épée de Damoclès pèse toujours sur sa tête, il ne serait alors plus en mesure de briguer un quelconque poste politique et le gouvernement pourrait mettre la main sur la capitale économique de la Turquie. İmamoğlu parle d'une exécution extrajudiciaire. La bataille va toutefois se poursuivre devant les cours d'appel, devant la Cour suprême et les tribunaux administratifs aussi, pour contester l'annulation de son diplôme universitaire. C'est indispensable pour se présenter à la présidence. Tout dépend de ce temps judiciaire, mais bien sûr le pouvoir peut l'accélérer. C'est donc une course de vitesse et c'est dans la rue, vous le disiez, que se joue en grande partie l'avenir du maire d'Istanbul. Son parti espère amplifier la mobilisation pour créer un point de non-retour. Cette nuit, comme les jours à venir, seront déterminants. C'est l'heure, écrit İmamoğlu, de rejoindre la lutte contre ceux qui ont volé la volonté de la nation.
Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. Le dossier ukrainien à présent. À quelles conditions une éventuelle trêve de la guerre en Ukraine ? Les discussions vont s'ouvrir demain en Arabie Saoudite, entre Américains et Russes d'un côté, Américains et Ukrainiens de l'autre. Mais dès ce soir, Ukrainiens et Américains ont commencé à en débattre à Riyad. Et comme pour donner le ton, l'émissaire américain pour l'Ukraine a accordé une interview aujourd'hui à la chaîne américaine Fox News, interview dans laquelle Steve Witkoff a choisi son camp, Loïc Loury.
Zelensky is trying his best. Volodymyr Zelensky a fait de son mieux, affirme Steve Witkoff, mais il est désormais temps pour lui de passer un accord. À l'entendre, la marge de manœuvre de Kiev apparaît pourtant bien mince.
Ukraine cannot be a member of NATO. I think that's largely accepted.
Il n'y aura pas d'adhésion à l'OTAN, répète l'émissaire spécial de Donald Trump. Quant au territoire revendiqué par Moscou à l'est de l'Ukraine, Steve Witkoff ne connaît pas leur nom, mais semble trouver légitime l'idée de leur annexion par le Kremlin. On y parle russe, il y a aussi eu des référendums et l'écrasante majorité de la population a exprimé le souhait d'être sous domination russe. C'est le point le plus important dans ce conflit. Tenus à l'écart des négociations en cours, les Européens, eux, sont traités comme de doux rêveurs. Je crois qu'ils sont poseurs, que c'est une posture, ils sont aussi trop simplistes. Il y a cette sorte de notion qui est de dire « il faut tous que nous soyons comme Winston Churchill, la Russie va envahir l'Europe ». Mais je pense que c'est absurde. Tout le contraire de Vladimir Poutine, dit Witkoff, intelligent, gracieux et digne de confiance. New York, Loïc Loury, France Inter.
Nous partons maintenant en Israël, quelques jours après l'éviction du chef du renseignement intérieur, limogeage d'ailleurs bloqué pour l'instant par la Cour suprême. Eh bien voilà la procureur général Ghali Bahrav-Mihara, sur le point d'être destitué à son tour. Un conseil des ministres spécial a donné son feu vert aujourd'hui. Cette magistrate qui conseille le gouvernement est un peu la garante de la démocratie israélienne. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. À plusieurs reprises, cette magistrate s'est opposée à Benjamin Netanyahou en dénonçant, par exemple, des conflits d'intérêts.
Et oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Benjamin Netanyahou était absent lors de ce débat sans précédent. Un conflit d'intérêts en raison de son procès pour fraude, abus de confiance et corruption. Alors, c'est une première étape sur la voie de l'éviction de la magistrate. Une motion de défiance, les ministres israéliens ont voté à l'unanimité le début de la procédure de destitution de la procureure générale qui pourrait durer des mois. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui présidait la séance, a vivement déploré que Ghali Bahrav-Mihara n'ait pas assisté à la réunion ni envoyé de représentants. C'est une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres, a-t-il déclaré. La conseillère juridique du gouvernement, c'est son titre officiel, dans une lettre cinglante au ministre, accuse le gouvernement de vouloir se placer au-dessus de la loi et agir sans contrôle ni équilibre. Elle qualifie cette réunion du gouvernement portant sur sa propre destitution de dépourvue de validité juridique. L'objectif réel de la procédure, ajoute-elle, est de fermer les yeux sur des actions illégales prise par le gouvernement.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. Ce merci à tous entendu à la mi-journée. Les mots du pape étaient péniblement prononcés en s'adressant à la foule, en fauteuil roulant, sur un balcon, avant de quitter l'hôpital Gemelli de Rome. François est donc rentré au Vatican après une quarantaine de jours d'hospitalisation pour une double pneumonie. Il devra suivre au moins 2 mois de convalescence.
France Inter, Éric Delvaux.
Les Parisiens étaient invités à voter aujourd'hui pour ou contre la végétalisation et la piétonnisation de 500 nouvelles rues dans la capitale, ce qui ferait disparaître au passage plusieurs milliers de places de stationnement. Mais planter des arbres en zone urbaine, eh bien ce n'est pas simple comme un coup de pelle, explique cet expert, il s'appelle Philippe Alluin, ingénieur, architecte, expert en développement durable.
C'est très difficile de verdir les rues parce que les rues cachent de multiples ouvrages enterrés, des réseaux, des galeries, le métro à Paris qui donnent des contraintes techniques très importantes. Ce verdissement, il coûte de l'argent aussi. Il coûte de l'argent à l'investissement, mais il coûte aussi plus d'entretien. En réalité, il serait beaucoup plus facile de verdir des premières couronnes ou deuxièmes couronnes des grandes villes. Seulement, effectivement, il faut y consacrer l'argent. Et c'est ça, malheureusement, le frein, bien entendu.
Et toujours à propos de la capitale, l'écologiste David Belliard, adjoint au transport, a été investi aujourd'hui par son parti pour briguer l'hôtel de ville en 2026. Le sport avec l'équipe de France de football, ce soir au Stade de France, match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations. C'est face à l'Australie, face à la Croatie. Le jeudi dernier à Split, au match aller, les Bleus avaient bu la tasse, 2-0. Et bien ce soir, ils vont donc devoir trouver de nouvelles combinaisons pour renverser la vapeur. Xavier Monferrand, vous êtes en direct de Saint-Denis, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Il y aura pratiquement 80 000 supporters dans les gradins ce soir. Ça fait près de 2 ans que l'équipe de France de football n'a pas joué dans un stade de France aussi plein.
Exactement, près de 2 ans, c'était en juin 2023 face à la Grèce. Depuis, il y a eu évidemment la parenthèse olympique avec les travaux, les JO et après, il y a eu un seul match en fait au Stade de France depuis 2 ans. C'était face à Israël dans un contexte extrêmement particulier, hautement sécuritaire. Il y avait eu que 16 000 personnes qui étaient là dans ce stade qui sonnait désespérément creux. Là, l'équipe de France retrouve son public dans les grandes largeurs, à guichet fermé, 80 000 personnes au meilleur des moments, parce que la France, vous l'avez dit, en a besoin. Le public doit jouer son rôle pour porter les Bleus vers la qualification. Tout le monde a en tête l'Ukraine en 2013, où les Bleus avaient perdu 2-0 à l'aller et l'avaient remporté ici 3-0, ce qui avait permis aux Bleus d'aller à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Là, l'enjeu est moindre, ce n'est que pour la Ligue des Nations et une place en demi-finale. Mais oui, c'est important et grâce au public, les Bleus peuvent le faire ce soir.
Xavier Monferrand en direct du Stade de France avec les moyens d'Alexandre Abergel. Le procès de Gérard Depardieu à partir de demain, 13h30 au tribunal correctionnel de Paris. L'acteur est mis en examen pour viol, agression sexuelle sur deux femmes. C'était lors du tournage en 2021 du film Les Volets Verts de Jean Becker. Procès une première fois renvoyé fin octobre pour raison de santé de l'acteur. Gérard Depardieu revient cette fois avec une expertise médicale qui lui permet d'assister à l'audience 6 heures par jour, pas plus, explique son avocat Jérémy Assous.
Ça va être la première fois que Gérard Depardieu pourra démontrer publiquement que les accusations dont il fait l'objet depuis un certain temps sont totalement fausses et infondées. C'est plus des accusations sur lesquelles on ne peut pas se défendre pour des faits prescrits ou des personnes qui sont anonymes. Là, il va enfin pouvoir bénéficier des droits que nous avons tous, à savoir de confronter les accusations à la réalité, à des éléments objectifs, comme par exemple des témoins qui ne connaissent ni les parties civiles, ni Gérard Depardieu. Et là, le tribunal, mais le public, vous vous rendrez compte que l'ensemble de ces accusations sont totalement mensongères.
Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, au micro de notre consoeur de France Info, Mathilde Lemaire. Quant à l'avocate de l'une des deux plaignantes, maître Karine Durieux-Dibault, ce procès très médiatisé doit permettre un débat plus large sur les violences sexuelles.
Il y a une dimension publique, culturelle, effectivement, même politique, puisque c'est remonté jusqu'au président de la République qui a pris position dans cette affaire, qui est particulière, qui prête à discussion, à une conscience collective. J'espère qu'il y en aura une aussi, de savoir que un artiste de cette envergure-là peut commettre des violences sexuelles, qu'il y a eu un laisser-faire pendant des années, une tolérance du milieu, que les violences sexuelles, c'est un rapport de pouvoir et de domination, et qu'il a exercé ce pouvoir et cette domination pour parvenir au corps des femmes.
Pouvoir et domination, dit cette avocate d'une des plaignantes interrogées par Delphine Efnoux. Eh bien, ce procès de Gérard Depardieu est aussi une nouvelle étape de la libération de la parole autour des violences sexistes et sexuelles au cinéma. Une préoccupation qui résonne jusque dans les grandes écoles de cinéma, comme la FEMIS à Paris, qui forme les futurs réalisateurs et autres travailleurs des plateaux de tournage désormais, très mobilisée sur cette question, Estelle Romer.
Même si pour le moment, elle n'a eu que de bonnes expériences, Claire, future monteuse, reste méfiante sur les tournages.
Moi, je suis en montage, ça fait partie de mes petites peurs parce que je me retrouve seule avec des gens dans des salles et si ça se passe mal, il n'y a pas de témoin. Je suis seule avec le réalisateur ou la réalisatrice. Je ne sais pas du tout à qui faire confiance.
Mais la nouvelle génération, bien plus sensible à ces questions, a déjà les bons réflexes et ça se voit en plateau lors des contacts physiques pour le micro ou les déplacements caméra, explique Lou.
Avant de commencer, on se dit, est-ce que t'es d'accord si je te touche? Est-ce que tu préfères que je t'attrape par là ou par là? Dans l'exercice filmique, il y a une attention particulière entre nous.
Lucas, futur réalisateur, compte bien garder ses réflexes et veut casser la hiérarchie presque militaire des tournages.
L'avenir du cinéma, c'est un cinéma où le tournage est plein d'amour, de respect. Il y a plein de réalisatrices et de réalisateurs qui ont déjà commencé à le faire. Lucrecia Martel, Alicia Rohrwacher ou plein d'autres. C'est possible.
C'est possible et c'est bien ce que comptent prouver ces jeunes.
On est quand même au milieu d'un élan, quoi. Et là, en fait, notre travail maintenant, c'est pas d'enfermer cet élan. Commençons à se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le cinéma y renaisse complètement.
Ils suivront de près le procès de Gérard Depardieu qu'ils espèrent exemplaire pour les nouvelles générations.
Et après le cinéma, on va parler de séries, avec les séries politiques qui font un carton. C'est une tendance. Entre mythe et réalité, la fonction de président de la République éveille tous les fantasmes dans les séries. François Hollande le sait bien, l'ancien locataire de l'Élysée était présent ce matin au festival Série Mania à Lille pour une masterclass. Celui qui s'est présenté comme un président normal est venu tordre le cou à certains clichés véhiculés par les fictions. Sur place au festival, Fanny Imbert a rencontré François Hollande.
Non, il n'y a pas de gros bouton rouge pour déclencher l'arme nucléaire, ça n'existe pas. François Hollande est venu parler de la vie des présidents, la vraie vie.
Alors le rituel, c'est le perron. Moi, ça m'est arrivé d'attendre très longtemps
un chef d'État qui ne venait pas. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais le ciel. Et alors, tous les photographes sont là. S'en aller, c'est un risque s'il arrive. Rester, c'est une épreuve. Vous verrez jamais ça dans une série.
Alors, si un jour il doit exister une série pour adapter son quinquennat, entre un thriller comme Baron Noir.
Tu l'as tué, intimidation, tu te prends pour qui?
Une comédie comme En Place.
Non, mais je vais être moi-même, la street, quoi, tranquille.
L'ancien locataire de l'Élysée choisit plutôt le drame sentimental.
La réalité, c'est de mélanger. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'extrême gravité, c'est aux catastrophes aériennes, aux attentats, et de sourire aussi, de personnages que l'on peut effectivement penser impitoyables et qui se révèlent vulnérables. La bonne série, c'est celle où on passe, comme dans la vie d'ailleurs, hein, de moments de douleur, ou de colère même, et des moments où la lumière apparaît et le sourire jaillit.
Pour l'ancien président, la fiction, pourquoi pas, mais si elle donne à comprendre l'exercice du pouvoir, plutôt que sa conquête, avide et solitaire.
Le festival Sérimania, donc, à Lille, jusqu'au 28 mars. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tentes et cabanes en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien demain matin, ce sera assez calme.
Oui, parce qu'on aura des averses surtout sur le sud-ouest, les Landes, le Pays Basque et le centre-est. Mais partout ailleurs, des nuages, avec même le retour de brouillard de la Bretagne au nord-est, avec des températures qui continuent de baisser, puisque la moyenne ira de 4 à 7 degrés dans les terres, 7 à 10 degrés en bord de mer.
Et des nuages aussi l'après-midi, hein, pas mal.
Oui, c'est vrai, ça ne change pas beaucoup, ce sera encore sec. Avec des nuages, quelques éclaircies des Ardennes vers le centre-Val de Loire, en passant par l'île de France, sec aussi sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, mais pour les autres, le ciel va rester couvert avec quelques gouttes le long des côtes de la Manche, des giboulées et des orages sur la moitié est, c'est là que ce sera le plus agité, et ce sera encore assez pluvieux sur le Pays Basque, sur les Pyrénées, où on aura de la neige au-dessus de 1500 mètres sur l'ouest des Pyrénées, neige également au-dessus de 1500 mètres pour les Alpes. Les températures seront semblables à celles d'aujourd'hui, avec une moyenne de 11 à 16 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta.